supporter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc, et c'est reparti pour notre chronique Constituons la liberté que nous voulons, mais une liberté qui se mérite. Notre 5e République, je crois que je devais repartir d'ailleurs sur les députés, il me semble, la dernière fois, sur les députés et le titre 4 de notre Constitution, le Parlement. Alors je vais faire juste une petite entrée en matière. Notre 5e République est un régime parlementaire avec un Parlement composé de l'Assemblée nationale élue au suffrage universel direct et du Sénat élu au suffrage universel indirect selon l'article 24 de notre Constitution. Je vous le relis car ce n'est pas ce genre de texte que l'on retient si facilement, combien même je vous l'ai déjà lu lors de l'avant-dernière chronique et peut-être encore avant. Titre 4, donc, Poupa, tu as repris le petit constituant.
Et je surveille. Voilà, et je fais juste une petite remarque. Je fais très attention aux mots. Peu de gens s'en rendent compte, mais le mot parlement m'a toujours fait rire.
Ah.
Bah oui, parlement.
Ah oui, parle.
C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est écrit dans le nom.
Oui, d'accord.
Voilà, c'est oui. Tout. C'était une petite réflexion, plaisanterie.
Bon, très bien. Oui, c'est vrai que, bon, pour le coup, moi, c'est juste que ça regroupe l'Assemblée nationale et le Sénat. Bon, c'est vrai que je fais un petit peu, on va dire, d'éducation politique. J'en profite avec cette chronique. Donc, je vous relis le titre 4 de notre Constitution, le Parlement. Article 24. Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du gouvernement, il évalue les politiques publiques, il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder 577, sont élus au suffrage universel direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder 348, est élu au suffrage universel indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français, établis hors de France, sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà ce que comprend exactement cet article, n'est-ce pas, Poupa ?
Absolument. Sauf qu'il n'y a pas universel.
Voilà.
Je voulais juste dire que dans la Constitution, c'est suffrage direct et suffrage indirect.
Ah oui, pardon.
Il n'y a pas universel.
Universel, d'accord. C'est vrai. Je l'avais remarqué, je l'ai rajouté parce que je pensais m'être trompée.
Non. Pas du tout. Et c'est intéressant parce que tout comme le mode de scrutin, l'assiette de votants, je sais pas, enfin, ces choses-là sont réglées par des lois organiques et non pas du tout par la Constitution. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut passer du jour au lendemain de l'élection des députés au suffrage universel uninominal à deux tours à la proportionnelle totale.
Oui.
Et on peut interdire du jour au lendemain aux femmes de voter, par exemple.
Ah non.
Mais
après, je me posais...
c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit universel dans la Constitution.
D'accord. Bah, tu fais bien de le dire. Alors finalement, Poupa, j'ai une question pour toi. 577 députés, donc élus au suffrage direct. Les 577, pourquoi 577 ?
Alors ça, c'est une bonne question. Je sais que c'est le maximum, qu'on a été moins à des moments,
oui,
qu'on
que
a été plus.
Je crois que c'est la 3e République, il y en avait 608.
Ah oui, mais ça c'est la 3e. Mais sous la 5e République, ça n'a pas été constant le nombre de le nombre de députés, puisqu'il y a des remodelages de circonscriptions. Et également, on a augmenté le nombre d'élus des Français de l'étranger.
Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que ça, c'est pas.
Avant, c'était pas zoné.
Oui.
Au début de la 5e République, on votait pour les représentants des Français de l'étranger. Mais maintenant, il y en a un pour l'Amérique du Nord, un pour l'Amérique du Sud. Chacun est spécialisé dans une zone.
Bon, j'essaierai d'éclaircir un petit peu
Mais pourquoi 577 maxi ?
Oui. Bon,
Bonne question. Voilà. Bah, c'est qu'on ne peut pas mettre plus que 577 circonscriptions.
Bah, sans doute, il y a sûrement une raison tout à fait valable pour qu'il y ait ces 577 députés.
Ça fait déjà pas mal. Hein,
oui, c'est déjà beaucoup.
Il y a combien 98 départements.
Oui, non, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, je trouve.
Ouais. Plus 5 pour les Français de l'étranger. Voilà, ça fait donc 103. 103, 577 divisé par 103 pour voir combien ça fait de circonscriptions par. Et ça fait 5,6 circonscriptions par département. Et quand on voit que le Tarn-et-Garonne n'en a que 2.
Oui, et c'est vrai qu'en plus, ils ne sont pas tous égaux hein, non plus.
Voilà, mais je donne l'exemple justement, puisque le Tarn-et-Garonne n'en a que 2.
Bon, nous essaierons donc la prochaine fois de rééclaircir un petit peu l'histoire.
Pourquoi ce 577
ce 577 députés. Donc, je reprends. L'Assemblée nationale, dite aussi Chambre basse du Parlement, dispose du dernier mot sur le vote des lois. Elle seule peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement en lui refusant sa confiance ou en votant une motion de censure. Dans la même logique, seule l'Assemblée nationale peut être dissoute par le président de la République. L'Assemblée nationale est née le 17 juin 1789. Ah ah, année de la Révolution française, elle est au cœur de notre démocratie. Elle forme avec le Sénat le pouvoir législatif. Alors que fait le Sénat ? Son rôle est de défendre les intérêts des communes, des départements et des régions, ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Cependant, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum, par l'article 3 de la Constitution et par le vote. La semaine dernière, je vous avais dit que je parlerais du rôle, de la fonction, du mandat d'un ou d'une députée. Je tenais à vous préciser qu'être député, ce n'est pas un métier. Aucun diplôme particulier n'est demandé, ni aucun savoir-faire n'est exigé pour légiférer ou contrôler l'action du gouvernement. Mais vous vous en doutez bien qu'il faut malgré tout aimer la politique et savoir de quoi on parle pour défendre les intérêts du pays et de ses citoyens. Ce n'est pas non plus être député une fonction. Un député est élu, pas nommé, par une autorité. On vote pour lui. Je vous rappelle que, comme l'indique l'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants, donc nos députés. Que font les députés ? Ils votent la loi, ils peuvent déposer des propositions de loi en commission, puis en séance publique. Ils peuvent proposer par amendement des modifications à un texte déjà voté ou examiné et prendre la parole. Saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur la conformité du texte voté à la Constitution. Le député peut interroger le gouvernement, examiner son action au sein d'une commission, voir s'il est rapporteur spécial au sein de la commission des finances, contrôler l'emploi de l'argent public. Il peut également, en signant une motion de censure, mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Les députés forment avec les sénateurs la Haute Cour, chargée depuis la révision constitutionnelle du 23 février 2007, se prononcer alors sur une éventuelle destitution du président de la République. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le député est renvoyé devant ses électeurs. Bien qu'élu dans le cadre d'une circonscription, chaque député, compte tenu de sa mission, représente la nation tout entière et exerce à ce titre un mandat national. Comment les députés sont élus ? Les députés sont élus pour un mandat de 5 ans dans le cadre d'une circonscription formée par plusieurs cantons d'un département.
Contigu même. Comment ? Il faut absolument que les cantons se touchent.
Se touchent. Ah oui, c'est
vrai. On ne peut pas faire une circonscription avec on saute un canton et hop, on revient. Ça, c'est pour éviter le charcutage électoral. Et ça explique les 577, parce que j'ai cherché entre-temps. En fait, c'est une modification permanente de la carte électorale. Parce qu'on veut arriver à ce que chaque député, hormis les députés des Français de l'étranger, représente à peu près le même nombre d'électeurs.
Ok.
Pour un problème. Donc, en fait, comme la population globale de la France augmente le nombre d'électeurs pour un député augmente aussi. Mais on redécoupe. Alors, on ne peut pas, parce que ça va plus loin dans les règlements, il y a les lois organiques qui règlent tout ça, on ne peut pas couper un canton, par exemple. Une circonscription, elle doit contenir absolument un canton entier. On ne peut pas le couper en deux. Et on arrive à ça, et ça donne un truc qui est assez amusant, c'est que le député qui a le moins d'électeurs, c'est le député de Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque, évidemment, il y a un député. Et il a 4966 inscrits.
D'accord.
Donc c'est dérisoire. Et à côté de ça, la première circonscription des Français de l'étranger, je ne sais pas à quel territoire elle correspond, lui, il représente 200 306 inscrits.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà. Mais en moyenne, en 2017, un député représentait environ 125 000 personnes.
Ah oui. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un redécoupage
On est obligé de redécouper, mais en tenant compte de cette règle qu'il faut que les cantons se touchent et qu'on ne peut pas couper un canton en deux.
Moi, je trouve ça normal en même temps.
Et après, bien sûr, il y a une autre règle qui est fixée, non pas par la Constitution, mais par la loi. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à 108 000 habitants, il y a un seul député.
Oui.
Jusqu'à 216 000, il y en a deux. Jusqu'à 324 000, il y en a trois. Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on a déterminé le nombre de députés.
Le nombre des députés. Bon, alors là, nous avons une bonne réponse. Merci,
papa. Ah bah, y a des gens qui ont travaillé pour nous. Internet est magnifique. On pose la question, on trouve la réponse.
On trouve la réponse. C'est pour ça, on ne peut pas dire, mais Internet, c'est intéressant aussi. On peut obtenir des réponses, c'est vrai, à ce genre de questions un petit peu exceptionnelles, quoi. Depuis 2002, les élections législatives prennent place après l'élection présidentielle. Bien, j'en arrive donc aux élections législatives, avec son mode de scrutin, car les députés sont élus au suffrage universel direct, au scrutin uninominal, majoritaire à deux tours. D'ailleurs, je voulais m'excuser, car la semaine dernière, je ne vous ai pas transmis les bonnes dates des prochaines élections législatives. Elles sont donc bien le 12 et le 19 juin. Je crois que j'avais décalé d'une semaine le deuxième tour. Est élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Et s'il représente au moins 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales. Si personne ne remplit ces conditions, il y a alors ballottage et un second tour est organisé le dimanche suivant. Ne peuvent se maintenir au second tour que ceux qui ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des inscrits. Ça, c'est la loi.
À noter que pour ces élections, on prévoit un taux d'abstention énorme. On va avoir très peu d'élus au premier tour, puisque pour obtenir les 25% des inscrits, plus il y a d'abstention, plus il est difficile d'être élu au premier tour.
D'être élu au premier tour, avec les fameuses 12,5%.
Et ça va compliquer également. Non, ça, c'est les 12,5%. Les 12,5%, c'est pour pouvoir se présenter au second tour.
Ouais.
Et justement, s'il y a énormément d'abstention, il va être très difficile pour beaucoup de candidats d'obtenir 12,5% des inscrits pour pouvoir se présenter au second tour. Donc finalement, des triangulaires, il va y en avoir très très peu.
Ainsi, revenons en 2017, la dernière élection législative. Dans la deuxième circonscription du Tarn-et-Garonne, celle qui nous concerne, il y a eu ballottage entre Mme Sylvia Pinel et M. Romain Lopez. Au deuxième tour, Mme Pinel l'a emporté, mais ne l'oublions pas, avec à peu près 49% d'abstention. C'est énorme. Allez, chers Français, il va falloir aller voter. C'est plus encore plus important, ces élections législatives.
On peut se plaindre que, contrairement à d'autres pays où ça existe, il n'y ait pas de quorum minimum de votants pour valider l'élection. On peut légitimement, je pense, se poser la question, s'il y a moins de 50% de votants, est-ce que
l'élu
est légitime,
ouais, tout
puisque
à fait.
50% des gens ont choisi de ne pas voter.
Oui.
C'est une question qui reste entière.
Oui, et tout à fait. Et pour ces élections, il est important que les candidats rencontrent la population, organisent des réunions, distribuent ces tracts, et cela comme ils l'entendent, car ces élections constituent le cœur même de la vie démocratique en France. C'est vrai que pour moi, c'est des élections qui sont ultra importantes et où on aura, en tous les cas, nous en tant que citoyens, notre poids. On peut exiger des choses, on peut demander.
Alors j'aime le contact avec la population. Je ne ferai référence qu'à une chose, c'est la présentation de Jean-Michel Blanquer à Montargis, où il n'avait jamais mis les pieds précédemment.
Ouais, ben, c'est triste. Cette politique-là, moi...
Plus ils ont de la chance, hein. Jean-Michel
pas.
Blanquer,
ah,
en
oui,
personne,
oui, oui,
il va
oui,
voir.
Oui. Le régime électoral prévoit en même temps que l'élection du député est aussi en même temps celle d'un suppléant. Appelé à le remplacer, bon, en cas de décès, de nomination au gouvernement ou au Conseil constitutionnel, ou dans le cas d'une autre mission temporaire. Depuis la loi organique de février 2014, est interdit le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Compté des élections législatives de juin 2007, du coup, un député doit démissionner ou faire un choix lorsqu'il occupe plusieurs fonctions. Il peut être alors remplacé par son suppléant. C'est pour ça qu'on a donc un titulaire, un suppléant à ces élections.
Eh bien, on a connu cela avec Sylvia Pinel, qui a été ministre, qui était députée déjà de la deuxième circonscription de Tarn-et-Garonne, qui a été secrétaire d'État, elle n'était pas ministre. Eh bien, pendant toute la durée où elle était ministre, c'est son suppléant qui a fait fonction de député.
D'accord. Tout candidat à une élection législative doit mettre en place un financement de campagne. Il doit répondre à des règles d'organisation et des dispositions réglementées. Un mandataire doit être nommé pour tenir ses fameux comptes de campagne. Donc, comme toute autre élection, que ce soit présidentielle, élection législative, on est à peu près avec les mêmes réglementations pour l'organisation des élections.
De princesse et de cerf-volant, je lui soleil dans ma mémoire, je lui soleil.
Nous venons d'écouter donc Au petit bonheur, je veux du soleil. Reprenons. Un mandat électoral est une fonction confiée de manière temporaire par des électeurs à une personne élue afin qu'elle agisse par représentativité ou par délégation en leur nom. En politique, le mandat impératif désigne un mode de représentation dans lequel les élus ont l'obligation de respecter les directives de leurs électeurs, sur la base desquelles ils ont désigné sous peine de révocation. Le mandat impératif est lié à la notion de souveraineté populaire. Il s'oppose au mandat représentatif, forme de mandat politique qui possède la caractéristique d'être général, libre et non révocable. C'est-à-dire que le représentant peut agir en tout domaine à sa guise, car il n'est pas tenu de respecter ses engagements. Les députés élus sur un mandat impératif ne représentent que leurs électeurs et non pas l'ensemble de la nation. Le mandat électif est libre si l'élu est libre de ses votes. C'est un contrat moral entre les électeurs et l'élu pour qu'il défende les opinions présentées dans son programme électoral. Relisons alors l'article 27 de notre Constitution. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. Ce mandat impératif est encore, parfois, toujours contesté. Il n'est pas autorisé en France, comme la plupart des démocraties actuelles qui ont opté pour la souveraineté nationale et rejette donc le mandat impératif. Depuis la révolution de 1789, la nation représente l'ensemble des citoyens détenant la puissance politique, dite souveraineté. Il y a superposition entre la nation, le peuple et l'État, auquel la nation délègue sa souveraineté. Même les députés élus au niveau d'une circonscription par les élections législatives représentent l'ensemble de la nation. Que de confiance sont données à nos députés? Sommes-nous devant un leurre démocratique? Les députés sont-ils porteurs de messages comme un simple facteur qui ne décide rien, qui fait appliquer la décision collective prise par des citoyens localement? Et s'il ne le fait pas, ah si, il est remplacé. Tout le contraire de l'élu actuel à mandat libre. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Un peuple est libre quand il ne peut être opprimé ni conquis, égal quand il est souverain, juste quand il est réglé par des lois. Antoine de Saint-Just, L'esprit de la Révolution. Les dates 1767-1794. Avant de vous quitter, chers citoyens, chers auditeurs, je vous rappelle que l'association pour une constituante, dont je fais partie, n'a pas pour but d'écrire une constitution, mais de préparer le plus grand nombre de citoyens à la rédaction de la prochaine, qui est désormais inévitable et nécessaire. Un travail citoyen qui peut d'ores et déjà commencer. Et même, il a déjà commencé. Nous nous gardons bien d'apporter des certitudes et solutions toutes faites qui donneraient le sentiment que nous détenons la solution. Pour autant, je voudrais apporter ma contribution et commencer avec vous, citoyens du Tarn-et-Garonne, à amorcer ce chantier collectif pour un nouvel avenir. Nous pourrions mettre en commun nos analyses, nos propositions et nos initiatives. Nous ferons la démonstration que cela est possible. La constituante est le premier attribut de la souveraineté. Elle est historiquement liée à la laïcité en France et se retrouve aussi dans la démocratie sociale. Ne restons pas à l'écart du pouvoir. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour aborder la suite de ces articles dans le titre 4 de notre Constitution, le Parlement, le gouvernement et les rapports qu'il y a entre les deux. Vous pouvez vous y intéresser et nous retrouver en allant sur le site www.pouruneconstituante.fr. Mais vous pouvez aussi me laisser des messages, des critiques sur une boîte mail pouruneconstituante82@free.fr. Je vous dis à la semaine prochaine.